Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. La conjuration des Pazzi. Épisode 1, le jeu des alliances. Juillet 1477, ville d'Urbino, en Italie. Entre les murs de cette petite ville perchée au sommet d'une colline à l'ouest de la mer Adriatique, quelque chose de sombre est en train de se tramer. Au cœur d'un entrelacs de ruelles médiévales, un palais monumental se dresse dans toute sa singulière beauté. Les briques qui recouvrent les façades de cette construction suscitant l'admiration de toute la péninsule italienne lui confèrent l'aspect d'une forteresse de pierre lisse à la hauteur saisissante. L'originalité et l'harmonie de ces grandes tours lui donnent un air de palais des papes d'Avignon, tandis que des loggias superposées offrent le style le plus pur et le plus raffiné de la Renaissance italienne. À l'intérieur de cet édifice se dévoile un immense complexe architectural, une véritable ville dans la ville. Le commanditaire de cette création exquise, le duc d'Urbino régnant, Federico de Montefeltro. Érudit passionné d'art, éduqué dans la pensée humaniste, le duc vient de faire achever entre ses appartements privés et les salles de réception officielles un studiolo. Autrement dit, une petite pièce vouée à la réflexion. Une merveille de collaboration entre des artistes flamands et italiens, sorte de manifeste de Federico de Montefeltro, qui a réussi à transformer la capitale de son petit état d'Urbino en véritable carrefour intellectuel et artistique. Installé dans son merveilleux décor de marqueterie de bois et de symboles évoquant les muses, les vertus, les arts et les sciences, le duc d'Urbino se tient aussi immobile qu'une statue. Si son œil droit a disparu lors d'un accident de joute, d'ailleurs il offre toujours au portraitiste son profil gauche, l'autre brille d'un feu étrange, car son physique, ingrat, cache une intelligence fulgurante. Humaniste amoureux des arts, le duc d'Urbino est avant tout un politique de génie et un chef militaire d'exception. Son esprit vif et réaliste est capable de mettre au point les stratégies les plus complexes. Et en ce mois de juillet 1477, il fait tourner à plein régime ses hautes facultés intellectuelles. Cet homme étonnant, aujourd'hui totalement méconnu, est en train d'imaginer les détails du complot qui prendra le nom de conjuration des Pazzi. C'est en réalité assez tardivement que la famille Pazzi aura un rôle à jouer dans cet épisode dramatique et douloureux pour la famille Médicis. Je vous propose de découvrir la vérité sur cette histoire d'ambition où tous les coups sont permis. Voici la conspiration la plus sombre, la plus sanglante et la plus machiavélique de la Renaissance italienne. L'Italie de la Renaissance est une mosaïque de territoires, des cités-états contrôlées par des familles qui règnent en véritables despotes à plus ou moins grande échelle. À la période qui nous intéresse, citons les états pontificaux avec Rome pour capitale où le pape fait autorité, le puissant et riche duché de Milan gouverné par les Visconti puis par les Sforza Visconti, le royaume de Naples, où brillent les illustres rois d'Aragon, et enfin les Médicis qui dominent la cité de Florence et dont l'influence s'étend à toute la Toscane. Ces territoires cohabitent plus ou moins, fonctionnant selon des systèmes d'alliances économiques, politiques et militaires. Des alliances mouvantes, peuplées de guerres silencieuses, de trahisons continuelles et de meurtres violents, où l'ami d'un jour et souvent l'ennemi de demain. Le point de départ de notre histoire est un premier drame, une tragédie comme il y en a tant dans l'histoire à la fois flamboyante et sauvage de cette Italie de la Renaissance. Pour comprendre, remontons un peu le temps. La Renaissance, c'est l'âge d'or des condottieri. Si le métier des armes peut se révéler très rude, il ouvre des perspectives extraordinaires aux capitaines ambitieux et talentueux. Pour devenir condottieri, un homme doit d'abord démontrer son habileté stratégique sur le champ de bataille, acquérir une forme de respectabilité qui lui permet de prendre la tête de troupes de mercenaires. Comme la plupart des États italiens ne possèdent pas d'armée, le condottieri peut ensuite vendre les services de sa propre armée de mercenaires aux plus offrants. Ils sont payés aussi bien pour combattre que pour rester tranquille. Un vrai business. L'historien de la Renaissance Marcello Simonetta commente. Les condottieri les plus fameux pouvaient connaître une ascension sociale prodigieuse, comme en témoigne l'itinéraire de Francesco Sforza. Fils de condottieri, Francesco Sforza s'impose comme leader des mercenaires de son père, puis vend ensuite ses troupes et sa capacité exceptionnelle de commandement au gré des turbulences géopolitiques. Ses victoires successives lui permettent de se rapprocher des familles régnantes, notamment les Visconti, ducs de Milan. En 1441, Francesco Sforza parvient à épouser la fille unique et illégitime du duc, Blanche Visconti. Sforza possède désormais une légitimité à réclamer le duché de Milan. Opportunité qui se manifeste à la mort du duc en 1447. Dès le mois de mars 1450, Francesco Sforza est acclamé seigneur et duc de Milan, puis négocie une paix avec ses voisins. La paix de Lodi, signée en 1454, ouvre dans la péninsule une période de relative tranquillité qui va durer 25 ans. Le couple Sforza-Visconti, l'un des plus respectés de toute l'histoire de l'Italie, forme un duo exceptionnel. Mais bien que diplomate habile, Blanche Visconti ne peut rivaliser en politique avec Cicco Simonetta, loyal collaborateur de Francesco depuis 20 ans. Ce personnage étonnant, au teint brun et à la silhouette trapue, est d'origine plutôt modeste. Né en 1410 dans un petit fief près de Crotone qui appartient alors à Francesco Sforza, Cicco Simonetta réalise des études de droit. Vers 1430, âgé de 20 ans, il entre au service de Francesco grâce à son oncle qui travaille déjà pour le condottieri. Le voilà partie prenante du gouvernement itinérant de ce puissant chef mercenaire. Il sait très vite se rendre indispensable par son esprit avisé et ses conseils judicieux. Dès son avènement au duché de Milan, Francesco Sforza nomme Cicco chancelier d'État. Un poste clé qui lui permet d'exercer de nombreuses responsabilités. Cicco Simonetta prend l'habitude de venir voir le duc dans ses appartements privés pour le tenir au courant des affaires, lui lire les dépêches, échanger sur des sujets épineux. Il gouverne en tandem avec Sforza, l'un des États les plus puissants d'Italie. Cela implique de prendre quelques précautions. L'historien Marcello Simonetta, oui, il s'agit bien du descendant de Cicco, explique comment son ancêtre gouvernait grâce à la stratégie du secret. À une époque où les lettres voyageaient à dos de cheval à travers l'Europe, sur des routes peu sûres, tout homme impliqué dans les affaires politiques savait bien que les messages devaient être chiffrés par le biais de systèmes sophistiqués. Cicco avait mis au point une technique très complexe pour crypter les messages destinés à des collaborateurs et alliés. On dotait chaque ambassadeur milanais d'un chiffrement différent. Au total, il existait environ 250 symboles aléatoires qui remplaçaient chaque lettre seule ou des ensembles de 2 ou 3 caractères. Une autre cinquantaine de signes désignaient personne ou état. Ces codes n'étaient utilisés que quelques mois avant d'être renouvelés. Cicco est le véritable maître du cryptage. C'est lui qui invente les systèmes chiffrés les plus compliqués. Il aurait fallu des mois entiers pour parvenir à déchiffrer une dépêche milanaise tombé entre les mains d'un ennemi. Et ce ne sont pas les ennemis qui manquent. Lorsque le grand Francesco Sforza décède en 1466, c'est son fils aîné qui lui succède à la tête du duché. Galeazzo Sforza n'a pas hérité de la sagesse de son père. S'il est un brillant mécène amoureux des arts, en particulier de la musique, Galeazzo est surtout connu pour son caractère impulsif et capricieux, sa lubricité redoutée des Italiennes. Galeazzo renouvelle à Chico la confiance de son père. Ce n'est pas une mince affaire que de conseiller un homme pareil. Fort heureusement, le chancelier sait résister aux éclats de colère de Galeazzo et n'hésite pas à retarder ses décisions précipitées. Mais la situation reste fragile. Le duc n'est pas estimé ni même respecté. La noblesse milanaise a toujours considéré les Sforza comme des usurpateurs étrangers. Les maladresses de Galeazzo, qui se comporte vraiment comme un tyran, ouvrent la porte à toutes les conspirations. Il s'attire même le ressentiment d'une partie de la population et d'une partie de sa famille, notamment ses frères cadets Ascanio et surtout Ludovico, futur Ludovic le Mort. Grand ambitieux aussi, il éprouve beaucoup de mépris pour son aîné, et encore plus pour Chico Simonetta, qui accapare le pouvoir depuis tant d'années. Ludovico est d'ailleurs souvent chargé de missions diplomatiques en Europe qui le tiennent éloigné de la cour, plus pour longtemps. En 1476, trois rejetons de la noblesse milanaise s'allient pour débarrasser le duché de Galeazzo. Après avoir étudié les faits et gestes du duc, les conspirateurs mettent leur plan à exécution. Nous sommes le lendemain de Noël de cette année 1476. Le duc de Milan se rend à l'église Saint-Étienne pour entendre la messe, cheminant dans un passage que lui ont ouvert ses gardes du corps au milieu de la foule. Galeazzo traverse la nef et s'approche de l'autel. Les trois conspirateurs se glissent derrière lui. Soudain, le premier sort une dague et le poignarde sous l'abdomen, puis à l'estomac. Les deux autres se jettent sur lui et l'atteignent à la gorge, à la tête, au dos. Galeazzo s'écroule, mort dans une mare de sang. Deux des conjurés sont massacrés sur place et un troisième parvient à s'enfuir. Dès qu'il prend connaissance de l'assassinat du duc, Chico réagit avec sang-froid. Il prend tout de suite le contrôle de la police ducale et fait arrêter le seul conjuré survivant. Puis il réorganise le gouvernement, plaçant sous sa protection la veuve du défunt, Bonne de Savoie, et son jeune fils de 7 ans seulement, Gian Galeazzo Sforza. Si Bonne de Savoie a officiellement le titre de régente, c'est bien Chico qui gouverne au nom du jeune duc. Lorsque Ludovico et Ascanio Sforza apprennent la nouvelle de la mort de leur aîné en janvier 1477, ils chevauchent à bride abattue jusqu'à Milan. Ils découvrent alors avec stupéfaction que le nouveau gouvernement s'est constitué sans eux et qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Chico semble intouchable, jusqu'à l'arrivée d'un adversaire imprévu qui vient se greffer au clan des frères Sforza. Marcello Simonetta raconte. Les Milanais semblaient tranquilles et satisfaits de ce nouveau gouvernement bienveillant. Cependant, les menaces contre le statu quo rétabli allaient venir en réalité de l'intérieur de la dynastie régnante. Depuis de nombreuses années, Roberto de Sanseverino, le cousin de Galeazzo, était l'un des personnages les plus influents de la cour. Capitaine mercenaire habile et courageux, quoique arrogant, il s'était distingué sur les champs de bataille. En raison de conflits personnels avec le duc, il s'était établi à Bologne. Dès qu'il apprend l'assassinat de son cousin, Roberto, âgé d'une cinquantaine d'années, chevauche à toute vitesse vers Milan. Ce Chico Simonetta l'irrite tout particulièrement. Il n'arrive pas à accepter qu'un chancelier d'origine modeste vive au château, et pire, se soit installé dans les appartements privés de Galeazzo en invoquant les raisons de sécurité. C'est alors une succession de complots pour tenter de récupérer le pouvoir. Les deux frères du défunt et leur cousin Roberto de Sanseverino s'entendent immédiatement pour faire pression sur le conseil. Chico est délogé des appartements de Galeazzo. Victoire apparente, le chancelier s'en moque. Comme il a supervisé le chantier du château, il en connaît tous les passages secrets, et ils sont nombreux. Il passe aisément d'une pièce à l'autre grâce aux escaliers cachés construits dans les cavités des murs. Il continue donc à avoir accès à des pièces parfois connues de lui seul. Toujours est-il qu'Ascanio, Ludovico et leur cousin Roberto n'ont pas l'intention de laisser le chancelier faire sa loi à Milan. Chico, informé à temps par son réseau d'espions, échappe de peu à un complot visant à l'éliminer. On avait précisément chargé l'assassin de le couper en morceaux. Simonetta comprend qu'il lui faut chercher des alliés sûrs. Il ne fait pas confiance au pape Sixte IV à Rome, ni à la République de Venise. Le roi Ferrante d'Aragon à Naples ne lui semble pas le meilleur allié, il est trop ambitieux. Il reste alors deux options. Son ami de longue date, Federico de Montefeltro, puissant duc d'Urbino, condottiere qu'il a déjà aidé à réprimer des soulèvements, ou bien les Médicis de Florence, alliés des Sforza depuis plusieurs générations. Pourquoi pas les deux en même temps d'ailleurs? Au moment où le chancelier et régent de Milan sollicite la protection de Florence, c'est Lorenzo de Médicis, le fameux Laurent le Magnifique, qui est aux commandes de la ville. Comme Venise, Florence est supposée être une république. Une république en réalité très patriarcale aux mains des grandes familles et des personnalités en vue qui se répartissent le pouvoir au sein d'institutions dialoguant entre elles de manière assez complexe, et connaissant de multiples transformations. En haut de cette hiérarchie de conseils et d'assemblées, la seigneurie gouverne Florence. Une institution où Lorenzo et son frère Giuliano règnent en maître absolu. Aucun titre officiel ne peut expliquer un tel pouvoir. Si les frères Médicis, et Lorenzo particulièrement, dominent ainsi Florence, c'est grâce à un système solide de clientélisme inauguré par leur grand-père Cosimo, et un vaste empire économique qu'ils doivent au génie de leur arrière-grand-père Giovanni. Originaire d'une vallée située au nord de Florence, les Médicis s'installent très rapidement dans la ville pour exercer le commerce. Marchands talentueux, ils s'imposent parmi les plus riches familles florentines. Giovanni de Médicis, l'arrière-grand-père de Lorenzo et Giuliano, fait basculer le destin de sa famille en 1397. Négociateur habile, il fonde à Florence la Banque Médicis. Très vite, la famille devient la plus puissante de la ville grâce à sa dextérité dans les opérations financières et aussi grâce à la faillite de quelques concurrents gênants. C'est Giovanni de Médicis qui lance en 1420 le concours pour la construction du célèbre Duomo de la cathédrale Santa Maria del Fiore, prouesse architecturale achevée 16 ans plus tard. C'est sous ce même Duomo que se déroulera la grande tragédie de la conspiration qui nous intéresse. Fort d'une influence grandissante dans la cité, Giovanni de Médicis est nommé en 1421 gonfalonier de Florence, en charge donc de former le gouvernement de la seigneurie. Son fils Cosimo de Médicis naît en 1389. Seul héritier de la fortune paternelle, il succède à Giovanni dans la charge de gonfalonier. Devenu la bête noire de la puissante famille des Albizzi, Cosimo est exilé un temps par ses adversaires. Lorsqu'il revient en 1434, c'est pour imposer une autorité presque absolue avec une grande intelligence. Tout en gardant des apparences républicaines, il gouverne la ville d'une poigne de fer et ne cesse d'accroître les richesses de la famille. La Banque Médicis connaît à cette époque son apogée. Elle est la plus recherchée du temps. Cosimo parvient notamment à devenir le banquier du pape. Le comptoir de Rome, qui sert donc à couvrir les dépenses du pape, à prêter et à réaliser des opérations de change très lucratives, représente au fil des ans la moitié du bénéfice de la banque. La capacité prodigieuse de Cosimo à savoir bien s'entourer, à entretenir les fidélités et à se trouver des alliés sûrs, consolide encore la position de sa famille. Et devinez qui est son principal allié, Francesco Sforza. Cosimo soutient le condottiere dans son accession au duché de Milan en 1450. Puis il remplit les coffres toujours vides du nouveau duc. En échange, Francesco protège Florence. Il offre son épée et envoie ses mercenaires dès que Cosimo lui en formule la demande. Cette alliance très solide entre Florence et Milan et la paix qui prévaut sur l'ensemble de la péninsule favorise l'explosion de la créativité artistique et de la culture humaniste tant à Milan qu'à Florence. Protecteur des lettres, des arts et des sciences, Cosimo inaugure le mécénat des Médicis. Il fait acheter des manuscrits précieux en Orient, élève de nombreux monuments dans Florence, c'est lui qui fait achever le Duomo, et fonde une académie pour l'enseignement de la philosophie de Platon. Très populaire depuis qu'il a fait nourrir les foules pendant une famine, on le surnomme volontiers « père de la patrie ». En 1459, Francesco Sforza envoie à Florence son fils aîné, le fameux Galeazzo, pour rendre hommage à son allié Cosimo. Âgé de 15 ans à l'époque, Galeazzo rencontre la famille Médicis, dont le jeune Lorenzo, petit-fils de Cosimo, âgé de 10 ans. Surtout, Galeazzo est ébloui par la ville de Florence. Il écrit à son père que tout le papier et l'encre de Toscane ne suffiraient pas pour décrire l'opulence des grandes familles, l'harmonie des bâtiments. Florence est le paradis, soupire-t-il plein d'admiration. L'alliance semble extrêmement solide. Lorsque Cosimo de Médicis décède en 1464, son fils Piero reprend les affaires de la banque et consolide le pouvoir de la famille sur le gouvernement. Bien que très malade, on le surnomme Pierre le Goutteux à cause de l'arthrite qui lui déforme le corps, Piero parvient à garder intacte la fortune de la famille. L'alliance avec le duché de Milan fait une nouvelle fois ses preuves en 1466. Un complot mené par de riches citoyens florentins, qui envient l'hégémonie des Médicis, aboutit à une tentative de coup d'État. Mais lorsque les conjurés aperçoivent les armées de Galeazzo Sforza encercler Florence, c'est la débandade. Le duc de Milan a une réputation exécrable et chacun prend peur. Les Médicis sont sauvés. À la mort de Piero en 1469, c'est son fils aîné Lorenzo, 20 ans à peine, qui lui succède. Celui qu'on a appelé Laurent le Magnifique ne doit pas ce surnom à son physique, très disgracieux. Un nez cassé, un menton saillant, une bouche trop large, il est loin d'être un Apollon. Ce qui ne l'empêche pas de multiplier les conquêtes, malgré son mariage avec Clarisse Orsini, issue d'une des plus importantes familles romaines. Il est vrai que tous les contemporains notent le charme et la grande finesse d'esprit de Lorenzo, son immense charisme en somme. Acteur clé de la Renaissance, Lorenzo est un homme résolu, diplomate habile qui assoit définitivement la puissance et la réputation des Médicis. Véritable prince officieux de Florence, il règne sur la ville comme un roi dans ses états, plaçant ses plus sûrs amis dans les plus importantes fonctions, secondés par son frère, sa mère et ses cousins. Et chacun semble trouver son compte dans l'emprise exercée sur la ville par les Médicis. L'historien Will Durand résume à merveille le principe. Les marchands préféraient la prospérité économique à la liberté politique. Le prolétariat était occupé à des travaux publics de grande envergure et pardonnait la dictature aussi longtemps que Lorenzo lui fournissait du pain et des jeux. Des tournois attiraient les riches, des courses de chevaux excitaient la bourgeoisie et de somptueux spectacles amusaient les gens du peuple. Après l'austérité de Piero, le brillant et audacieux Lorenzo renoue avec le faste et le mécénat de son grand-père Cosimo, accueillant des artistes comme Michel-Ange. Il dépense tant et tant d'argent qu'il manque d'enterrer l'empire économique de la famille. Et oui, si Lorenzo est un mécène exceptionnel et un politique déterminé, il est un piètre gestionnaire. Rompant avec la règle instaurée par son arrière-grand-père Giovanni qui défendait à la banque Médicis de prêter au prince, trop peu fiable, Lorenzo prête allègrement et sans réflexion. Et ce qui doit arriver, arrive. En 1478, le roi Édouard IV d'Angleterre refuse d'honorer ses dettes. Comment contraindre un roi à payer ? C'est impossible. La filiale de Londres doit fermer ses portes. Lorenzo n'échappera à la banqueroute qu'en investissant sa fortune en terre. Évolution assez logique pour un homme qui devient une personnalité politique de premier plan. Cette ingérence et cette autorité dans les affaires de la péninsule italienne exposent rapidement les Médicis aux jalousies, aux ambitions et aux conspirations. Le règne de Lorenzo est notamment marqué par son bras de fer avec le pape Sixte IV. Une animosité réciproque sans laquelle la tragédie à venir n'aurait sans doute pas été menée à son terme. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série La Conjuration des Pazzi.